pour un temps comme celui-ci, chacun se souvient que cette phrase n'est pas une invention particulière d'un prédicateur, mais c'est la parole de Dieu qui a été prononcée par la bouche d'un homme de réveil. Il n'était pas encore d'église de réveil, mais c'était un cœur réveillé qui a parlé de cette manière en disant « Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» C'était l'histoire d'Esther. « Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es là où tu es actuellement ?» Que tu es placé là où tu es, que tu vis là où tu es, que tu travailles là où tu es, que tu vas à l'église là où tu vas. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci? Car, nous l'avons déjà dit, il n'y a pas de maîtrise du temps, mais Dieu maîtrise le temps. Dieu contrôle chaque seconde et chaque minute de notre vie. Il n'est pas dépassé ni perdu. Il est sur le trône et il règne, et c'est lui qui contrôle toutes choses. Nous allons voir aujourd'hui une autre histoire, un autre récit passionnant de la Bible qui va nous plonger dans un contexte où il y aura des différences et des similitudes avec l'histoire d'Esther. Et nous allons tirer quelques leçons précieuses pour nous aujourd'hui. Je crois que Dieu a une parole pour chacun. C'est la foi vivante de quelques jeunes que nous allons voir aujourd'hui. Quelques jeunes qui étaient transporté dans un univers aussi complètement différent de ce qu'ils avaient l'habitude de vivre. Et nous allons voir comment ils ont fait, comment ils ont réagi, ce qui s'est passé dans leur vie. Car ils avaient en eux des valeurs précieuses. Et j'aimerais vous dire quelque chose, c'est que tout ce qui est précieux dans ta vie sera un jour testé. Car si Dieu teste quelque chose, c'est pour augmenter sa valeur. S'il teste ton amour dans ta famille, c'est pour que l'amour grandisse en qualité. S'il teste ta foi, c'est pour que ta foi grandisse, non pas qu'elle s'éteigne. S'il teste l'espérance, c'est pour que tu puisses croire encore envers et contre tout. Ce qui est précieux sera testé. Ces personnes dont j'ai parlé ont été mises à rude épreuve. Et nous savons qu'au bout de l'épreuve, il y a la promesse de Dieu. Par exemple, l'apôtre Paul va dire « Quelle persécution n'ai-je pas subie ?» Il va ajouter, à la fin de sa vie, puisqu'il écrit cela dans 2 Timothée, « Et le Seigneur m'a délivré de toutes !» Jusqu'à aujourd'hui, tu peux dire « Le Seigneur m'a délivré de toutes mes épreuves !» Et à la fin, lorsque tu seras à la fin de ta vie, tu pourras aussi dire « Le Seigneur a raison, il m'a effectivement délivré de toutes mes épreuves, de toutes. » 2 Pierre 2, 9 nous dit « Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. » J'espère que tu es un homme ou une femme de piété aujourd'hui, et si tu es en route ou tu ne l'es pas vraiment, tu vas prendre exemple sur ces personnages bibliques dont je vais parler. Car ils avaient une vraie piété, ces gens-là, une vraie piété. Ce qui leur a permis d'être délivrés jusqu'au bout. Et non seulement être tout juste délivrés, mais être dans la victoire et recevoir aussi la récompense. Qui sont donc ces personnes, ces jeunes de qui je vais parler? Ils vivent aux alentours de 587 en particulier. C'est une date marquante dans l'histoire d'Israël, puisque c'est là qu'eut lieu pour la première fois la déportation du royaume de Juda, le royaume du Nord, ayant déjà été déporté par les Babyloniens, par les Assyriens plutôt, auparavant, dans les années 700 et quelques. Maintenant, un peu plus tard, le royaume de Juda, qui était le royaume qui est resté un peu plus fidèle que le Nord, va être déporté. Et dans cette déportation par l'ennemi, la puissance rayonnante de l'époque, qui montait à l'époque, c'était les Babyloniens. C'est ces gens-là qui étaient, on pourrait dire, des barbares, mais ils étaient aussi très intelligents. Ils sont arrivés donc en Israël, dans cette petite province de Juda, toute petite sur la carte, et ils vont prendre des choses précieuses. Et l'ennemi qui est là derrière, puisque Babylone, tout le monde sait que Babylone, c'est en quelque sorte l'anti-Jérusalem. C'est le lieu où sont concentrées les puissances des ténèbres. C'est un lieu de concentration, d'occultisme, de magie et de toutes sortes. Et ces Babyloniens vont s'attaquer à deux choses. Ils vont pas simplement brutaliser tout et tout le monde et raser les villes, les villages. Non, ils vont s'attaquer à deux choses. Ils vont s'attaquer premièrement au temple, parce qu'ils savaient que dans le temple à Jérusalem, il se passait des choses, parce que les nouvelles vont vite. Même à l'époque, ça allait vite. Et il se passait des choses. Dieu était au milieu de sa maison, et ça se savait à l'époque jusqu'aux extrémités du monde de l'époque. Tout le monde le savait. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont foncé dans ce temple et ils ont vidé ce temple de toutes ses richesses, puisqu'il y avait des ustensiles en or en particulier. Donc ils vont s'attaquer au temple. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on envahissait un peuple à l'époque, on devait détrôner son Dieu, parce que c'est ce Dieu, le Dieu du peuple, qui protégeait le peuple et l'armée. Et lorsqu'on vidait le temple, lorsqu'on renversait les statues, eh bien ça voulait dire que ce Dieu était soumis et que notre Dieu à nous est plus puissant. Donc en envahissant Jérusalem, c'était une grande tragédie pour les Juifs, parce que le temple a été vidé de tout, et ça voulait dire que les Babyloniens ont un Dieu supérieur au Dieu d'Israël. C'était grave. C'est ce qu'ils ont fait pourtant. La deuxième chose qu'ils vont faire, tellement ils étaient intelligents, c'est qu'ils vont déporter les jeunes qui étaient beaux, qui étaient intelligents, qui étaient pleins d'avenir et pleins de potentiel. L'ennemi va prendre tous ces jeunes et il va les dire, maintenant ils sont à moi et je vais en faire ce que je veux. Croyez-vous qu'aujourd'hui, le diable qui est celui qui a concentré les démons en Babylonie de l'époque, croyez-vous qu'il a changé de politique, qu'il a changé d'opinion, qu'il a changé de stratégie? Il va s'attaquer au temple, là où la présence de Dieu habite, et il va s'attaquer à la jeunesse, à nos enfants et nos jeunes. Parmi ces déportés se trouvent quatre jeunes dont les noms sont reportés dans le livre de Daniel. Il y a donc Daniel et ses trois amis qui s'appellent Azaria, Hanania et Michaël. Et pour eux, tout va basculer. Bien sûr, ils vont être enlevés du milieu de leur repère habituel. Ils sont arrachés de leurs parents. Ils vont devoir se déplacer environ 2000 kilomètres. Et dans un pays où ils ne comprennent pas la langue, ni les coutumes, ni la religion. Et le projet de l'adversaire des autorités babyloniennes, ce sera de reformater ces jeunes. Ils vont essayer de leur faire un lavage de cerveau. Tout ça, c'est marqué dans les textes du premier chapitre. Afin qu'ils deviennent des hommes nouveaux, prêts à tout pour le roi, pour investir tout leur potentiel, toute leur énergie, tout leur temps libre, tout sera consacré pour les intérêts des Babyloniens. Croyez-vous que l'ennemi a une autre stratégie? Je répète ma question. Est-ce que vous ne croyez pas qu'aujourd'hui, il y a quelque part une puissance, une stratégie, une ligne commerciale, j'allais dire, quelque chose qui veut formater nos jeunes pour qu'ils suivent tous la même direction et qu'ils soient tous utiles au projet du monde? Et nous, en tant que chrétiens, nous, en tant que parents chrétiens, nous luttons contre ça. Nous voyons cela, c'est évident. Beaucoup de jeunes ne le voient pas. Mais nous le voyons, nous les adultes qui avons de l'expérience. Et que faisons-nous? Nous prions, nous crions au Seigneur. Mais cela n'est pas toujours suffisant. Et puis, la Bible nous dit que Babylone, ce n'était pas une prison pour eux. Ce n'était pas un lieu de torture. Ce n'était pas un lieu de persécution. Ils étaient au contraire cajolés. Ils étaient nourris des meilleures choses. C'était une ville au sommet de la gloire de l'époque, attractive, intéressante. Il y avait plein de choses à faire et à regarder. 1000 possibilités, une offre impressionnante. Ils avaient accès à tout pour se distraire et s'amuser loin de chez eux. De toute façon, personne ne les verra. Allons-y, défoulons-nous à cette Babylone. On est invité par le roi de Babylonie même, ses adjoints et tout son parti, on va dire. Ils sont invités d'honneur et ils peuvent librement se servir dans cette Babylonie. Mais la Bible dit que nos quatre mousquetaires vont être remplis, ils sont partis en Babylonie remplis de sagesse, nous dit la Bible. Ils sont également remplis de dons naturel et spirituel. Et ce sera tellement évident, ils seront tellement reconnus rapidement dans le milieu païen dans lequel ils sont, que ils vont surpasser les mages, les astrologues et les sorciers qui travaillent en permanence à la cour du roi. Pourquoi ? Parce qu'ils ont du caractère. Ils ont une personnalité. Ils ont une foi positionnée dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Daniel chapitre 1, verset 8, nous dit de quelle manière ils avaient cette foi dans un milieu hostile. Comme je l'ai dit, ce n'est pas sous la pression, parce que parfois, lorsqu'il y a la souffrance et la pression, on s'approche plus automatiquement et spontanément de Dieu. Mais ils étaient dans un milieu relativement libre. Ils pouvaient jouir de beaucoup de choses. Ils avaient une vie facile qui leur était proposée. Mais la Bible dit ceci, et vous pouvez souligner ce mot dans vos Bibles. Daniel résolu, dites avec moi, résolu. C'est un mot à prononcer de temps en temps. Daniel résolu de ne pas se souiller. Au début, au chapitre 1, avant que quoi que ce soit ait commencé dans tout l'enchaînement de cette histoire de Daniel, Daniel et ses amis prennent la résolution de ne pas se souiller dans un monde où la vie est facile. Est-ce que c'est facile de faire ça? Non. Pour cela, il faut du caractère, il faut de la détermination, il faut de la foi, il faut de la force et du courage. C'est pour ça que j'ai prié pour du courage tout à l'heure. Ils ne vont pas s'assimiler dans ce royaume des Babyloniens. La Bible dit dans Romains 12, chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au monde présent. » Ne vous moulez pas dans la structure du monde à présent. C'est une parole pour nous. Ne vous moulez pas dans les idées, dans la mentalité du monde. Ne rentrez pas dans le système du monde, nous dit l'apôtre Paul. Et comme je disais, les Babyloniens très intelligents vont commencer à les formater. Ils vont commencer à toucher à leur profonde identité. Ce n'est pas juste, ils ne vont pas juste leur donner quelques jouets particuliers aux Babyloniens, quelques distractions favorites. Ils vont d'abord toucher leur identité. L'ennemi veut toucher la profondeur de l'identité de notre jeunesse et de nous. Première chose qu'il va faire, il va tout d'abord changer leur nom. Daniel deviendra Belshazzar. Azaria deviendra Shadrach, Meshach, Abednego, les trois amis de Daniel vont changer de nom. Ils ne vont plus être sous la bénédiction qu'ils avaient reçue par leurs parents lors de la présentation, parce que Daniel veut dire « Dieu est mon juge, l'Éternel est miséricordieux, qui est comme Dieu ?» Leur nom avait des significations fortes. Ils avaient été consacrés en Israël de cette manière-là. Et maintenant, on va les désacraliser en quelque sorte pour les placer sous la garde des divinités babyloniennes. Waouh, ça c'est un processus incroyable. Leur nouveau passeport donc sera non plus Daniel, Azaria, Hananiel et Michaël, mais ce sera ces noms babyloniens qui vont être sur leur passeport. Mais si on vous change le nom, qui peut changer votre identité? Qui peut toucher à votre identité profonde? Vous-même. Si vous acceptez d'être placé sous une autre autorité, vous pouvez le faire. Mais le Saint-Esprit va commencer à vous remuer. Il va vous dire, ne fais pas ce que tu es en train de faire. Ne va pas dans cet endroit qui est dangereux pour toi. Ne va pas si loin parce que tu vas commencer à changer des choses fondamentales dans ta vie. Ne bascule pas, ne rejette pas les valeurs qui ont été implantées dès ton enfance dans ton cœur. Mais plutôt protège-les, garde-les. Ils vont donc garder, malgré que leur nom officiel sera babylonien, dans leur cœur, ils seront toujours Daniel, Azariel. Ils seront Hanania et Michaël. D'ailleurs, la Bible dit dans les textes, quand vous lisez les pages du livre de Daniel, Daniel, vous savez comment il se présente? Il ne dira pas, je m'appelle le ministre Belshazzar. Il va dire dans ses textes, à chaque fois, il va dire, moi, Daniel. Moi, Daniel. Tout au long des années, parce qu'il va être sous le régime de 4 rois différents jusqu'au roi Cyrus. Eh bien, il va grandir, il va devenir vieux dans ce royaume de Babylonie, et il va toujours dire « Moi, Daniel ». Il ne perd pas son identité, mon frère, ma sœur. Ne perds jamais ton identité dans le Seigneur. Christ a défini qu'avec une identité de chrétien, sois fier de porter cette identité. en tant qu'homme, en tant que femme, sois fier et chéris le nom de Jésus qui est ce nom qui rayonne sur ta vie, qui est placé sur ta vie. Et si d'autres veulent te reformater, ne te laisse pas formater dans autre chose. Tu puisses dire, moi, chrétien, moi je suis à Christ, j'appartiens au Seigneur. Nous lisons maintenant au chapitre 2, verset 16. Dans la suite de l'histoire, va se passer quelque chose. Ce roi qui est un roi agité, un monarque astucieux, mais en même temps très aléatoire. Il est manipulé par les forces qui l'agitent, par sa cour remplie de magiciens qui sont remplis de démonisés, on va dire. C'est vraiment un concentré, comme je l'ai dit. Voilà que ce roi Nabucco va avoir un songe. Il va rêver. Et puis il va convoquer, étant agité le lendemain à son réveil, ne sachant pas ce qui s'est passé et ne se souvenant plus de son réveil, il va dire, vous les mages, vous en avez toute une série là devant lui, il en avait toute une série devant lui. Il va dire, interprétez-moi ce rêve. Mais alors les gens disent, mais nous pouvons interpréter les rêves, absolument. Mais il faut nous dire le rêve. Ah ben non, je ne vous dis pas le rêve parce que je l'ai oublié. Alors ils disent, mais personne ne peut faire ça. Personne ne peut révéler un rêve. Mais nous l'interprétons, et le roi va dire, si vous ne pouvez pas me rappeler le rêve et l'interpréter, je vous fais tous liquider. Un roi despotique comme dans les bandes dessinées. Pourtant, je crois que la Bible est authentique même sur ce point-là. Et Daniel, qui faisait partie de l'élite déjà avec ses quatre amis, Daniel et ses trois amis, ils étaient dans l'élite puisqu'ils avaient de la sagesse et qu'ils n'ont jamais perdu leur don spirituel. Ils ont emmené dans leur cœur la révélation du Saint-Esprit en Babylonie, et même transplantés dans un autre univers, ils étaient encore remplis du Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, là où Dieu te place, dans ton lieu d'habitation, dans ton lieu de travail, est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit là où tu es? Même dans le milieu le plus dur, vous allez dire, mais pasteur, tu ne sais pas où j'habite, tu ne sais pas où je travaille, c'est incroyable. Tu ne peux pas avoir idée où je travaille. C'est juste incroyable, je peux pas me profiler en tant que chrétien, mais tu peux être rempli du Saint-Esprit quand même. Peut-être que tu ne peux pas parler officiellement de Jésus, mais tu peux être rempli du Saint-Esprit. Et Dieu te demande ça. Quel que soit ton univers, sois rempli du Saint-Esprit. Tes amis, avec Daniel, étaient remplis du Saint-Esprit et ils vont faire quelque chose. Nous lirons au chapitre 2, verset 16 maintenant. Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder un délai pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et fit connaître cette affaire à Hanania, Michaël, Azaria, ses compagnons, pour implorer la compassion du Dieu des cieux au sujet de ce mystère, afin que l'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors, alléluia, alors le mystère fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité, à qui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois et établit les rois. » C'est un texte important, ça. Dieu peut enlever un roi et il peut en établir un autre, que ce soit un roi, un ministre, un magistrat quelconque. « Il donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » C'est lui qui révèle ce qui est profond et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te célèbre, je te loue pour la sagesse et la force que tu m'as donnée, car tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, et tu nous as fait connaître ce qui concerne le roi. Ces quatre personnages juifs, remplis du Saint-Esprit, sont à la cour du roi, et ils ne se laissent pas griser, ils ne se laissent pas prendre la tête à la cour du roi. Au contraire, ils gardent la tête froide. Il est dit au verset 14, Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée aux gardes du roi. Il avait gardé la sagesse, l'intelligence et le discernement. Ils vont rester unis. Ils vont prier ensemble. Et Daniel va avoir ce don extraordinaire de révélation avec tous les détails de ce que le roi Nebuchadnezzar a rêvé durant la nuit. Et lorsqu'il va le dire, ce don de révélation, lorsqu'il va simplement dire cette vision qu'il a, qu'il va révéler au roi, rappeler au roi, sera tellement fort qu'il nous est dit juste après que le roi va tomber à la renverse. L'onction était tellement puissante sur ce don de révélation que le roi tombe à la renverse et reconnaît que Daniel a vraiment reçu quelque chose et il reconnaîtra Dieu. Frères et sœurs, j'aimerais juste m'arrêter un instant. Est-ce que vous croyez à l'importance des dons spirituels? Est-ce que vous cherchez les dons spirituels? Est-ce que vous les pratiquez dans l'Église et hors de l'Église? Il y avait beaucoup d'amen, il y a de moins en moins d'amen. Et ça se comprend. Je ne peux pas non plus dire personnellement que c'est toujours ça qui me caractérise en tant que pasteur. Et pourtant, je pourrais vous dire beaucoup de situations où les dons spirituels de sagesse ou de révélation, à mon insu souvent d'ailleurs, ont été capital, marquants pour aider une personne, pour venir in extremis visiter quelqu'un, pour donner une parole qui révélait, qui décrivait littéralement l'histoire de cette personne sans rien connaître d'elle. Un don de révélation est nécessaire aujourd'hui. Il faut qu'il fonctionne dans l'Église et hors de l'Église. Et il faudrait qu'il fonctionne dans la rue aussi. Quand vous croisez quelqu'un, vous dites, il y a une parole pour cette personne-là. On s'arrête et on revient et on lui dit quelque chose comme ça, un inconnu, et puis on repart. Des choses comme ça, ça arrive. Ça arrive. Moi, ça m'a pris quelques fois, pas souvent, mais ça... Quand on est... Il faut être obéissant, il faut être courageux, il faut oser, et il faut aussi obéir quand Dieu met une pression sur nous. Il faut le ressentir et il faut oser donner suite à cela. Comme Philippe qui était en train d'évangéliser, et le Seigneur lui dit, tu quittes tout ici et tu vas sur le chemin désert de Gaza, il y aura une rencontre pour toi. Il est sur le chemin de Gaza, il attend. Et tout à coup, il y a ce char qui arrive avec l'eunuque qui a besoin de cette parole. C'est toujours de cette visite où je rentrais en voiture et avant de rentrer pour tester le repas de midi, je ne sais plus, mais je devais rentrer. Et puis tout à coup, je dis, quelque chose me dit, va à l'hôpital visiter telle personne, vite, fais-le. Et quand je viens, j'étais la dernière personne à visiter. Elle m'avait attendu avant de décéder. J'ai pu l'accompagner dans les tout derniers moments de sa vie. Il y aurait bien d'autres choses à dire. Il y aurait bien d'autres choses à dire. Vous avez lu certainement quand il y a eu le tremblement de terre et le tsunami en Indonésie, fin de l'année passée. Eh bien, il y avait un chrétien qui était pilote d'avion de ligne. Et il a senti une espèce d'urgence, il ne pouvait pas expliquer, mais il sentait, est-ce que je peux partir plus vite? Il a averti la tour de contrôle, j'aimerais décoller plus vite que prévu. Donc il a fait accélérer les choses et ils ont décollé, je crois, à peu près entre 4 et 5 minutes avant l'heure qui a été définie sur le tableau d'affichage. Et pendant qu'il décollait, juste au moment où il décollait, le tremblement de terre a commencé. La piste commençait à se déformer et la tour de contrôle est tombée. La personne avec qui il était en contact à la tour de contrôle lui avait dit encore « bon vol » et puis le contact a été coupé. La tour de contrôle est tombée et la personne est décédée. Mais l'avion, avec les 100 et quelques passagers à bord, a été sauvé. Ils ont vu le tsunami depuis l'avion qui avançait sur la terre. Voilà un don de révélation. Frères et sœurs, cherchons les dons spirituels. Ne bricolons pas les dons, mais il faut les recevoir, mais il faut aussi aller les chercher. Et pour les chercher, vous devez avoir de la compassion, vous devez avoir de la foi, vous devez désirer ardemment, Seigneur, c'est tellement nécessaire. Il y a des personnes qui viennent à l'église et qui sont dans un besoin criant. Ils disent, Seigneur, parle-moi ce matin, mais s'il n'y a pas des dons, s'il n'y a pas quelque chose d'inspiré, ces personnes repartent. Et Dieu avait rendez-vous pourtant avec eux. Est-ce que l'église est disposée à chercher les dons spirituels? Et ce qui est merveilleux dans ce texte de Daniel, c'est que le Seigneur aime les Babyloniens. Dieu veut sauver les Babyloniens au travers de cette révélation qui va stopper tout le décret mauvais du roi de Nabucodonosor qui veut mettre à mort tous les sorciers et les magiciens. Mais comme Daniel reçoit la révélation in extremis, eh bien son décret est stoppé. Donc, tous les astrologues, les magiciens sont sauvés grâce à ce don de révélation de Daniel. Dieu aime les magiciens. Là, on peut dire amen. Dieu aime les pires. Ceux qui sont trempés de part en part dans l'occultisme, Dieu les aime et Dieu veut les sauver. Je l'ai dit la semaine passée, la stratégie de Dieu, c'est toujours des dispositions en vue du salut. Dieu veut sauver. Jusqu'au bout, il veut sauver, sauver, sauver. Petits et grands, hommes et femmes, riches et pauvres. Il veut sauver, sauver. Même les pires ont besoin du salut, frères et sœurs. Pas les gentils, mais les pires ont besoin du salut. Suite à cela, donc, ils vont être élevés quelques instants. Ils vont être élevés, ils vont être dans le pôle politique de l'époque. Nous lisons ça au chapitre 2, verset 49. Ils vont vraiment hériter de grandes responsabilités. Mais malgré cela, malgré leur succès, malgré leur promotion, rien ne leur fait tourner la tête. Ils restent proches du Seigneur. Alléluia. Ils restent proches du Seigneur. Je bénis Dieu pour des gens qui ont reçu ou qui ont acquis des postes élevés et qui restent humbles et proches du Seigneur. Et là, on peut dire amen. Ça, c'est quelque chose qui est valable. Ça, c'est valable. Ils ne perdent rien de leur vie spirituelle. Et juste après, dans cet univers aléatoire, va venir quelque chose d'incroyable. Alors que le roi Nabucco va entendre l'explication de son rêve, il va voir cette statue qu'il avait effectivement vue dans son rêve, et il va se prendre lui la tête. Il va dire, puisque j'ai vu une statue et qu'on me dit que je suis la tête de la statue, ben je vais me faire une statue. J'ai envie d'avoir une statue à moi. Et puis pas n'importe laquelle, 30 mètres de hauteur, 60 coudées. 30 mètres de hauteur. Et puis, pris dans son élan d'occultisme, puisqu'il était manipulé par des puissances, nous le savons, il va demander que tout le monde adore cette statue. Et là, encore une fois, nous qui sommes des lecteurs de la Bible, nous voyons derrière cela la stratégie diabolique. Le diable cherche des adorateurs. Dieu cherche des adorateurs. Amen. Mais le diable cherche des adorateurs qui exclusivement vont l'adorer. Donc tout le monde va se prosterner devant cette statue. Le diable et l'antichrist, à la fin de la Bible, dans l'Apocalypse, nous lisons, il veut, il exigera l'adoration. Frères et sœurs, si tu n'es pas équipé aujourd'hui, si nos enfants ne sont pas équipés aujourd'hui, n'ont pas une identité ferme en Christ, mais s'ils se sont laissés reformater d'après le monde, ce sera facile qu'ils adorent tous les éléments de l'antichrist. Ils vont adorer. Il nous faut être comme ces jeunes à contre-courant, comme ces poissons en bonne santé qui nagent à contre-courant, qui vont être différents parce qu'ils ont un caractère et une personnalité. Leur liberté extraordinaire va être obsolète en un jour, en une seule nuit. Eux qui étaient libres de tout mouvement, ils vont être complètement ciblés. Frères et sœurs, nous aussi, nous pouvons aujourd'hui être libres et demain, nous pouvons être dans les soucis. Et même nos locaux peuvent être fermés un jour. Ça peut arriver. On ne le souhaite pas, bien sûr. Et le texte nous dit dans Daniel chapitre 3, verset 8, que la stratégie de l'ennemi, comme dans l'histoire d'Esther, il y a un parallèle, cet amant qui était ce méchant, il va cibler qui ? Les Juifs. Regardez ce qui est marqué dans le chapitre 3, verset 8. À cette occasion, et en ce même temps, quelques Chaldéens se rapprochèrent et accusèrent les Juifs. Verset 12 encore. Or, il y a ici des Juifs à qui tu as remis l'administration de la province de Babylone, etc. Shadrach, Meshach, Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi. Ils ne servent pas tes dieux, ils n'adorent pas la statue d'or que tu as élevée. Encore une fois, ce sont le peuple élu, le peuple choisi qui est ciblé par l'adversaire. La stratégie diabolique ressort dans le livre d'Esther. La stratégie diabolique ressort dans le livre de Daniel, clairement. Ne sois pas étonné, mon frère. Ne sois pas étonné lorsque tu t'engages pour Dieu, lorsque tu commences à prier davantage, lorsque tu prends des bonnes résolutions spirituelles, lorsque tu te lèves pour témoigner, lorsque tu te lèves pour prendre des positions courageuses. Ne t'étonne pas que l'ennemi se lève en même temps que toi. Ne sois pas étonné que quelqu'un d'invisible se lève pour te mettre les bâtons dans les roues, pour te décourager et pour t'empêcher de poursuivre dans cette ligne-là. Parce qu'il sait très bien que tu es dangereux pour lui. Et c'est ainsi que la cible de la vie spirituelle devient très, très précise. Le diable cible la vie spirituelle de ces jeunes. Le diable cible ta vie de prière, mon frère, ma sœur. Le diable cible, il voudrait éteindre ta vie de prière, il voudrait casser ta vie de prière, il voudrait diminuer ta vie de prière. Alors, aujourd'hui, qui va prendre une décision en disant « je ne me laisserai pas influencer » par ce Babylonien et par cette puissance derrière ces Babyloniens. Je ne me laisserai pas influencer, je garderai ma vie précieuse avec le Seigneur envers et contre tout. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? J'aimerais voir avec vous courtement quelles étaient les forces, quelles étaient les ressources. Il y en a cinq des ressources de ces quatre jeunes qui n'ont pas fléchi le genou devant la statue alors que tout le monde avait le front contre terre. Premièrement, écoutez, ces cinq points sont importants et ils vont vous être utiles dans votre vie. Premièrement, ils ont des racines. Ils ont des racines. Lorsqu'ils étaient encore tout jeunes, voire même des enfants, dans le royaume de Juda, chez eux, protégés et servis par les serviteurs, les sacrificateurs, les prophètes, eh bien, ils ont eu le temps de se faire des racines. Frères et sœurs, il n'y a rien de plus tragique que des gens qui viennent à l'église continuellement et qui ressortent les mêmes, et où, après 10 ans, 20 ans, ils n'ont toujours aucune racine. C'est une des choses qui pourrait m'attrister, c'est qu'après autant d'années de ministère, je vois des personnes qui m'ont entendu autant de fois, et où il n'y a rien qui a changé. C'est triste et dramatique. Or, pour Daniel, Azaria, Michaël et Azaria et Ananiel, eh bien, ces racines étaient là. Pourquoi? Parce que, écoutez bien, ils ont vécu sous le roi Josias, qui était un roi qui a amené un réveil en Israël. Ils étaient jeunes quand Josias va retrouver la parole de Dieu, quand il y aura l'expérience d'un réveil spirituel. Et ils vont expérimenter cette croissance spirituelle, ce réveil spirituel. Ils ont été touchés par ce réveil. Deuxièmement, ils vont être contemporains d'un prophète qui vivait avec eux, qui s'appelle Jérémie. Ils sont contemporains de Jérémie et ils vont entendre les paroles du prophète Jérémie. D'ailleurs, Daniel, bien des années plus tard, environ 60 années plus tard, va ressortir les prophéties de Jérémie qu'il avait emmenées en captivité avec lui dans sa petite cachette intérieure. Il avait le livre de Jérémie, quelques prophéties. Il va les ressortir pour les relire. Il y avait la parole de Dieu, il y avait l'expérience d'une vie spirituelle qui les a marqués. Frères et sœurs, c'est ça que nos jeunes ont besoin. Nos enfants ont besoin d'être en contact avec une vie spirituelle qui est authentique et forte. Il faut qu'ils vivent quelque chose et il faut qu'ils emmènent avec eux la parole dans leur cœur. Quel que soit le lieu où tu te trouves dans 10 ans, il faut que la parole de Dieu que tu as entendue en tant qu'enfant et dans cette église te suive. Amen. Ils ont donc des racines. Deuxièmement, ils sont unis. Chapitre 2, verset 16, nous l'avons lu. Ils vont se mettre ensemble pour implorer la grâce de Dieu face à cette situation. Les liens se serrent autour de leur vie qui est en danger. Ils sont comme un seul homme dans la prière. Lorsque nous sommes serrés par une épreuve, nous nous unissons pour rester ensemble et chercher Dieu ensemble. Ils ne se sont jamais perdus de vue. Il n'y a rien de plus tragique que des chrétiens tout seuls dans une église. Ne restez pas tout seuls. Vous avez besoin de vos frères et sœurs. Ils ont besoin de vous, mais vous avez besoin d'eux. Il faut être unis dans la prière. Quel est ton ami de prière? Est-ce que tu as un duo, un trio, un quatuor de prière? Est-ce que tu as quelqu'un avec qui tu peux prier? Par téléphone au moins, mais aussi se voir. Il faut que vous ayez des amis de prière. Si quelqu'un est tout seul, prenez aujourd'hui, au début de cette année, une résolution de ne pas rester tout seul. Troisièmement, ils connaissent Dieu personnellement. Ça a un rapport avec la racine. Mais comme leur nom a été changé, ils connaissent encore le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils connaissent le Seigneur, ils savent qui il est pour eux personnellement. Quatrièmement, ils sont entiers. Regardez ce qui est dit au chapitre 3, verset 15. Nous lisons. Chapitre 3, verset 15. Nous lisons à la fin du verset 15 qui est assez long. Et lorsque donc Nabucco va dire: et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Ils vont répondre, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Ils sont entiers. Ils sont entiers. Ils ne sont pas dans le doute. Ils sont réellement assurés de ce qu'ils savent. Maintenant, écoutez bien ceci. Si tu veux être courageux, fort et entier, dans les moments où ça va chauffer, et qui peut, ça peut arriver demain, sans vouloir vous faire peur, bien sûr. Je ne suis pas prédicateur de malheur ce matin. Mais lorsque, à un moment donné, un moment crucial, il faut prendre une décision et se positionner, ce sera très difficile si tu n'as jamais pris de décision avant. Mais lorsque dans les petites choses et dans le secret de ta chambre, tu prends des bonnes décisions et tu te tiens jour après jour dans ces décisions, lorsque ce sera très fort, lorsqu'il faudra prendre une grande décision, à un moment donné, tu pourras le faire. Parce que dans les petites choses, tu auras été ferme et entier. Si dans le secret, tu es ferme et entier, en public, tu pourras l'être aussi. Si tu es déterminé et entier dans le lieu secret où personne ne te voit, dans le lieu public, tu tiendras la même disposition sans compromis. Et puis, dernier point, de leur force. Ils ont des racines, ils connaissent Dieu, ils sont entiers, ils sont unis. Mais, verset 17, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus, disent-ils. Si cela doit être, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Ils sont soumis à la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu. C'est quelque chose qui est fort dans le message de Calvin, la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Et c'était un message qui sortait continuellement dans ses prédications, dans ses commentaires. Et j'ai l'impression que dans nos milieux, nous ne parlons pas suffisamment de cette souveraineté. Et que nous croyons toujours que des prophéties doivent s'accomplir. Nous croyons que c'est des prophéties, mais ce n'est pas toujours des prophéties justes. Nous sommes toujours en train de croire que Dieu doit faire quelque chose qui m'arrange, qui me sort de mon problème, de mon pétrin. Il doit intervenir. C'est la promesse, il est lié à sa parole. Non, c'est des choses comme ça que nous entendons. Mais nous oublions l'autre facette, qui est la souveraineté de Dieu. Et ici, les amis, ils ont compris ça. Ils sont remplis des dons d'esprit. Et ils savent, ils ont dit, Dieu peut nous délivrer. Et nous croyons qu'il peut le faire. Mais s'il ne le fait pas, ça ne change rien. Mes amis, je connais des personnes qui ont dit, ah, si Dieu me sort de cette affaire, alors je le servirai. J'ai visité une personne sur un lit de mort et disait, si Dieu me sort de là, je me ferai baptiser. Le lendemain, elle était décédée. Ne mettons pas des conditions à Dieu. Dieu est souverain. Il peut me délivrer, tout comme il peut m'aider à passer dans l'épreuve. Il sera avec moi dans l'épreuve, dans le chemin étroit, dans la vallée sombre et dans la fournaise. Mais il peut me délivrer, comme de quelque manière que ce soit. Il y a trop de personnes qui, atteintes d'une maladie grave, ont eu des prophéties à la chaîne, leur disant « tu guériras ». Et cela a fait plus de mal que de bien, croyez-moi. Plus de mal que de bien. Parce que ce n'étaient pas des vraies prophéties, non. Il faut être réaliste. Ces personnes devraient se taire au lieu de dire des bêtises. Nous devons laisser la souveraineté à Dieu tout en gardant la foi pleine et entière. Ce n'est pas en contradiction d'avoir une foi solide. Et lorsque Dieu me révèle personnellement que je vais en sortir sans passer par l'épreuve, alors c'est bien. Mais Dieu reste souverain, il est souverain. Et ils le disent clairement. Sinon, de toute façon, nous ne changerons pas d'avis. Il reste entier en libération ou dans l'épreuve. Il reste les mêmes. Il reste les mêmes. Laissons-nous donc inspirer par ces jeunes. Car la grâce va suffire. Et j'arrive à la fin de mon message. Ils vont donc passer effectivement dans la fournaise, car à côté de la statue, il y avait le four. À côté du centre d'adoration, juste à côté, il y avait la punition, il y avait le châtiment pour ceux qui ne veulent pas adorer. Et au chapitre 3, verset 23, il nous est dit que ces hommes, Shadrach, Meshach, Abednego, sont tombés liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé, se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Verset 25, il reprit et dit, « Eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont pas de mal. Et l'aspect du quatrième ressemble à celui d'un fils des dieux. » Alléluia. Dieu est avec eux dans l'épreuve et dans la fournaise ardente. Le Seigneur est avec eux, ils ont été entiers, ils n'ont pas fléchi, ils ont accepté la souveraineté de Dieu. Ils étaient des modèles, ils ont été contre tous. Et Dieu a été avec eux dans la fournaise. Frères et sœurs, pour un temps comme celui-ci, oui, ils étaient là dans un temps qu'ils ne géraient plus rien. Mais Dieu gérait pour eux. Si tu ne gères plus rien, Dieu gère le temps pour toi. Et c'est pour un temps comme celui-ci que tu es là, à l'endroit où tu es, pour vivre aussi l'expérience que tu dois vivre. Et il nous est dit qu'ils subiront donc cette fureur de celui qui veut faire du mal. Mais écoutez-moi, l'ennemi peut toucher certaines choses dans ta vie, mais il ne peut pas toucher ta foi, il ne peut pas toucher ton âme, il ne peut pas toucher ton esprit, il ne peut pas toucher ton courage, il ne peut pas toucher ta joie, il ne peut pas toucher les joyaux précieux que le Seigneur a mis dans ta vie, alléluia. Il ne peut pas toucher, il ne peut pas toucher. Il peut toucher notre corps, il peut nous faire mal, il peut nous faire souffrir, c'est vrai. Mais il y a des choses auxquelles il n'a pas accès, parce que tu appartiens au Seigneur, alléluia. Tu appartiens au Seigneur. Ô Babylone, tu ne te rends pas compte de ce que tu es en train de faire. Quelle folie de mettre ces beaux jeunes dans une fournaise, de les détruire. Quelle folie, tu vas te priver du moyen de salut pour ton peuple. Combien les peuples qui persécutent les chrétiens ne savent pas le mal qu'ils font. Des gens qui bénissent les autres, qui aiment, des gens qui se donnent pour être des modèles au niveau moral et au niveau comportement, eh bien, on leur fait du mal. Combien ces peuples sont aveuglés par le diable? Pas possible. Babylone, tu ne te rends pas compte de ce que tu es en train de faire. Mais Dieu va changer le mal en bien. Et le Fils de Dieu, lui-même, va se lever de son trône. Il va descendre les marches étoilées du ciel. Il va descendre jusque dans la fournaise. Et il va arriver dans cette fournaise et il va dire « Flamme, refroidissez-vous !» Et il va dans ce feu refroidi, il va être là au milieu avec ses amis qui n'ont pas renié son nom. Et il va enlever les liens de leurs mains. Vous savez, parfois les épreuves peuvent nous libérer complètement. Les épreuves peuvent nous libérer de toute notre préoccupation charnelle, toutes nos ambitions inutiles. Les épreuves enlèvent tout ça. La comparaison, la jalousie, toutes ces choses disparaissent. L'incapacité de pardonner, l'amertume, toutes ces choses s'évanouissent lorsqu'on passe dans la fournaise. On est libéré. Le cœur est libéré, frères et sœurs. C'est ce que je veux ce matin pour chacun de nous. Le Seigneur nous dit, si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, je serai avec toi. Si tu traverses les eaux, tu ne te noieras pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne te consumera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Dieu veut nous sauver. Lui qui a ouvert la mer Rouge devant Israël. Lui qui a fermé la gueule des lions pour Daniel. Lui qui a ouvert l'eau pour du rocher le plus dur. Lui qui a arrêté le soleil pour Josué, lui qui a ressuscité Lazare et nourri la foule, est-ce qu'il ne peut pas intervenir dans ta situation, mon frère? Ils peuvent intervenir dans ta situation, crois-le ce matin, et lève la main, on veut se lever ensemble, alléluia. Le chant qui nous dit « Christ seul me suffit », ce chant nous dit « En Jésus seul », plutôt il est dit « Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle, Jésus est maître de ma vie. Le plan des hommes et les plans du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle par la force du Christ, je tiendrai. » Alléluia. Et ce qui va se passer, c'est que lorsque cette évidence de la délivrance va être finalisée aux yeux du roi, eh bien le roi lui-même s'incline et tout le peuple s'incline pour reconnaître encore une fois le Seigneur, le vivant. Frères et sœurs, c'est ce que Dieu veut avec chacun de nous.